Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent ce matin, qui nous visitent ou qu'ils viennent découvrir notre église sur le conseil de leur pasteur. C'est très sympathique d'avoir une sœur que Luc nous envoie. C'est vrai que je l'ai connue quand j'étais étudiant là-bas, quand il était pasteur Vermelan. Et puis surtout, j'ai connu son épouse qui a été ma prof de grec pendant 2 années. Elle a eu beaucoup de patience avec moi, je crois. Ce matin, j'aimerais partager un court passage d'un texte parmi ceux que moi, en tout cas, j'aime à lire de temps à autre, certainement même régulièrement, parce que je le trouve aussi beau, très beau. C'est un texte de l'un des quatre évangiles, celui de Jean. Et je vous invite tout simplement à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Donc, évangile de Jean, chapitre 17, et nous commencerons notre lecture dans toute cette prière qu'il a, mais nous n'allons pas tout lire, donc ce sera dans les versets plutôt des versets 11 à 18. Voilà. Puis je demandais si déjà quelqu'un peut m'afficher juste la première diapo, que je puisse prendre la main après, en espérant que ça marche ici. J'ai un petit doute. Je ne sais pas si la télécommande fera l'affaire, on verra. Alors, lisons, lisons. Ah oui, peut-être avant le texte, ce sera quand même mieux, j'oublie. Donc Jean 17, versets 11 à 18. Alors, bientôt, je ne serai plus dans le monde car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Voilà. J'ai été un tout petit peu plus loin, mais aucune importance. Je reviens et, comme je vous l'ai présenté, alors si je peux avoir le PowerPoint, ça y est, je vois que ça marche là. Si je trouve, comme je vous l'ai dit, ce texte magnifique, c'est tout simplement parce qu'il nous offre, il nous fait entendre la prière de Jésus peu avant que lui-même ne s'offre en sacrifice. Une prière au Père, pour ce que le Père lui a donné, c'est-à-dire ses disciples. Notez bien que le début de cette prière est surtout une intercession pour les plus proches disciples de Jésus, à commencer par ceux qu'on appelle les 12, les apôtres. Mais elle ne s'arrête pas qu'à eux, elle concerne vraiment tout disciple. Et ils n'étaient pas que 12 déjà en ce temps-là. Et bien que le Seigneur ouvre sa prière aux autres disciples, dès le verset 20, un peu plus loin, la partie de cette prière que nous venons de lire, de partager là, à l'instant, par la lecture de l'Évangile, nous concerne aussi, j'en suis persuadé, car elle reste une prière pour tout disciple engagé à sa suite. Et dans ces mots du Christ adressés au Père pour nous, il y a, semble-t-il, comme un paradoxe. Quelque chose qui semble inconciliable dans ce que Jésus demande au Père pour ceux qui lui appartiennent. Or, qu'est-ce que donc ce paradoxe? À un moment, vous l'avez peut-être remarqué, Jésus prie ainsi: Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Et ça, c'était au verset 14. Et ici, qu'est-ce que l'on entend peut-être? Alors, j'espère que j'arrive à le faire marcher à nouveau. Ah, les joies de l'informatique et de l'électronique, vous me direz. Ça fait de tels progrès. Voilà. Bon, j'espère que ça va. Ici, Jésus affirme que tout disciple n'appartient pas au monde. Ou, pour le dire peut-être plus correctement, n'appartient plus à ce monde. Nous y appartenons à un moment donné. Mais voilà, devenant disciples, nous n'appartenons plus à ce monde. Nous sommes devenus citoyens du ciel. Un enfant du Dieu très haut, pour le dire encore autrement. Et à l'image de ce que ce passage suivant de l'Épître aux Hébreux dit, alors je ne l'ai pas affiché là, mais entendez-le, voilà ce que dit l'auteur, c'est dans la foi que, et un peu plus loin, ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Vous sentez comme des voyageurs sur la terre ? Comme étrangers sur la terre peut-être, ce serait plus en rapport, parce que je ne sais pas si vous voyagez tous beaucoup au sens premier, mais au sens spirituel, oui. Imaginez, vous voyagez jour après jour, à chaque fois que vous allez au boulot, vous voyagez, non pas en RER, mais spirituellement, parce que vous n'appartenez pas à ce monde. Et étant Jésus dit ceci, et à côté de cela, dans cette même prière, il vient prononcer ceci encore. Écoutez, c'est au verset 11. « Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. » Ou un peu plus loin, au verset 15, il dit encore ceci. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Alors, ah ça alors, ça va pas le faire. Hein. Je sais pas si on va abandonner le PowerPoint, parce que je sens que ça va me casser les pieds. Non, bon, Mathieu me fait signe. Alors, je te ferai des petits signes, on fait comme ça? Ok. Désolé, ça va être un petit peu bizarre. Autrement dit, dans ces autres moments de sa prière, versets 11 et 15, comme je vous l'ai lu, Jésus insiste auprès du Père de veiller sur nous. Car bien que nous n'appartenions plus à ce monde, c'est-à-dire que le péché qui règne dans ce monde, sur ce monde, n'est plus notre maître aujourd'hui. Eh bien, pour autant, nous demeurons citoyens de ce monde. Nous restons, pour le dire autrement, impliqués dans ce monde. Ou encore une autre manière de le dire, nous sommes solidaires de ce qui s'y déroule au quotidien. Et surtout solidaires de cette humanité qui, elle, reste encore sous l'esclavage du péché. Et c'est cela qui peut paraître paradoxal quand nous l'entendons ainsi. Ainsi, et là, s'il te plaît Mathieu, pour juste le petit truc suivant, nous avons une double citoyenneté. Et encore la suivante, merci, nous sommes à la fois citoyens du ciel et en même temps, pour encore un peu de temps, citoyens de ce monde. Alors ça fait un peu ça, quoi. On a l'impression d'être tiraillé hein, entre le haut et le bas. Mais pour le dire ainsi déjà d'abord, entendez-le que c'est une sacrée chance. Oui, une sacrée chance que d'être au bénéfice de cette double citoyenneté. Bien mieux que de bénéficier notamment d'un passeport diplomatique. Bon, je suis pas sûr que vous en ayez tous eu un jour en main. Certains en ont parfois, tant mieux pour eux. Mais, oui, je reviens en vous disant que c'est une chance d'avoir cette double citoyenneté. On peut passer encore au petit truc suivant. Encore, voilà, merci. Car pour nous, être disciples, et là encore une petite pichenette s'il vous plaît, désolé, hein, j'avais tout prévu, ça va être compliqué. Car pour nous, être disciples est donc synonyme de l'appartenance réelle et permanente au royaume de Dieu. Entendez bien que vous qui aujourd'hui, pour ceux qui se savent être disciples de Jésus, vous appartenez d'une manière réelle et d'une manière permanente, pas seulement aujourd'hui ou demain et peut-être la semaine prochaine, permanente, en continu et éternellement, vous êtes citoyens du ciel. Et c'est là une chance. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux qui attend de venir s'installer pleinement sur terre quand tout sera accompli. Ce royaume n'attend que de s'étendre jusqu'à la création. Mais nous sommes déjà citoyens du ciel. Et pour autant, si c'est une chance, et j'espère que vous l'entendez ainsi aussi comme moi, nous avons quelques difficultés avec cette double citoyenneté. Et là, je veux bien qu'on passe à la suivante. Merci. Nous avons une difficulté ou des difficultés à vivre cette double citoyenneté, car oui, il y a de la difficulté. Notamment tant nous serions tentés de ne vivre qu'à présent dans le royaume de Dieu. Je vous pose la question ainsi, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Qui aimerait aujourd'hui n'être que dans le royaume des cieux? Qui aimerait trouver la paix profonde que le royaume des cieux peut nous offrir? L'absence de toute souffrance et de larmes? Ah! Mais ça n'est pas le programme pour aujourd'hui, apparemment, pas encore. Oui, cette double appartenance, cette double citoyenneté qui nous tiraille un petit peu, alors ça peut peut-être faire des élongations du dos, ça peut être bon pour vous, mais je ne crois pas que ce soit ainsi que cela agit en nous. Cela nous est d'autant plus difficile car l'on aimerait effectivement se soustraire à ce monde. Peut-être même, pour le dire encore autrement, se soustraire à nos autorités. Peut-être à mon chef aussi. Non, non, non. Votre chef est un homme bien, j'en suis sûr. Priez pour lui. Mais, oui, il y a cette tentation parfois qui peut venir en nous, suivant les situations, suivant les circonstances, de vouloir être soustrait des choix qui se font là, dans ce monde. De tout ce qui, quelque part, impacte ma vie en raison des choix qui ne me correspondent pas dans ma foi. Alors, effectivement, nous sommes certainement plus ou moins tiraillés. Et bien que nous ne revêtions pas d'une autre citoyenneté, celle des Gilets jaunes, apparemment c'est une nouvelle citoyenneté, et je le dis sans méchanceté, hein, entendez-le bien, il peut nous arriver à tous comme à eux. Parce qu'ils ressentent des choses, et ils le disent. Sur certaines choses, certainement, ils ont raison. Dans la manière de l'exprimer, de le revendiquer, pas toujours. Mais, à l'image de ce qu'eux expriment, peut-être pour nous, pour d'autres choses, nous aussi, nous pouvons nous sentir méprisés. Nous pouvons nous sentir délaissés, oubliés dans ce monde, voire même, pourquoi pas, rejetés. Soit peut-être par mes collègues, qui n'acceptent pas ce que ma foi engendre dans ma vie. Ce que j'essaye de témoigner, peut-être même par un voisin, une voisine, peut-être même plus durement dans ma famille aussi. Et c'est là plus dramatique encore. Alors avec plus de distance, mais parfois cela peut être une souffrance plus ou moins pour nous, plus encore et certainement pour des frères et des sœurs de par le monde, de par ces autorités, ces dirigeants, qui en raison de notre foi nous rejettent. Parfois même désire nous persécuter, voire même nous voir mourir. Alors bon, nous n'en sommes peut-être pas là, nous, aujourd'hui, mais notre foi en Christ, qui est partagée par tant d'autres frères et sœurs, est parfois vécue d'une manière plus dramatique encore. Et pourtant, malgré ces sentiments qui nous tiraillent, nous demeurons citoyens de ce monde. Car Jésus, lui, notre Seigneur, et c'est lui seul notre Seigneur, désire que nous restions dans le monde aujourd'hui encore. Et c'est ce qu'il dit dans cette prière. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un petit titre, il y a là comme un paradoxe. Dieu dit de nous que nous sommes citoyens du ciel, que nous n'appartenons plus à ce monde, et pourtant il veut que nous soyons dans ce monde, en étant comme citoyens de ce monde. Il y a comme quelque chose d'insensé. Attention, je ne dis pas que Jésus dit quelque chose d'insensé, mais cela peut nous sembler ainsi. Et pourtant, cette double citoyenneté, c'est là l'expression que j'ai choisie, est l'expression de la volonté du Fils et du Père pour nous, aujourd'hui. Alors je veux bien qu'on passe à la petite échelon, voire même peut-être parce qu'après, voilà, merci. Plutôt qu'un paradoxe, il serait plus juste de dire que cette double citoyenneté est une source de tension. Une source de dilemme pour tout chrétien que nous sommes. Et au quotidien, nous nous heurtons parfois à cette réalité qui nous paraît difficile à concilier. Alors j'aimerais vous proposer de prendre un peu de recul par rapport à notre situation contemporaine et d'aller regarder un peu à ce que dit l'histoire biblique, au moins un bout d'histoire biblique. Alors là, je veux bien qu'on passe déjà à l'autre diapo suivante, avec au moins son titre. Mais quand Paul exhorte l'église de Rome ainsi, et c'est, je pense, pour beaucoup d'entre vous, un verset que vous connaissez, on peut le faire apparaître aussi, merci, « Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. » C'est en Romains, chapitre 13, verset 1. J'espère que vous arrivez à le lire et que c'est assez grand pour vous. Mais quand Paul écrit ici à ses frères et sœurs de l'église de Rome, n'oublions pas une chose, essayons de le replacer dans le contexte, n'oublions pas que Néron, peut-être un nom plus ou moins familier, Néron, l'empereur Néron, est devenu justement empereur par un crime. Et qu'il perpétue et reste en tant qu'empereur grâce à des crimes. C'est un homme criminel, et c'est par la violence qu'il a accédé au pouvoir, et c'est par la violence qu'il continue de s'y maintenir. Et le peuple le sait, pas seulement l'Église. On le sait et il terrifie déjà, avant même qu'il ne commence à persécuter l'Église chrétienne. Voilà dans quel contexte Paul écrit et dans quel contexte Paul dit ceci à ses frères là-bas à Rome. Imaginez un peu le dilemme pour eux. Paul nous exhorte à nous soumettre, notamment à cet homme-là. Et on sait comment il est venu au pouvoir. Il n'y avait pas d'élection à l'époque, hein, mais alors là, c'est même très très loin des élections. Alors, que faut-il entendre dans ces paroles pauliniennes, dans ces paroles de Paul et de, osons-nous poser la question, va-t-il trop loin quand nos autorités se font tyranniques ou quand nos autorités tombent dans une impiété, dans un péché qui, quelque part, peut nous choquer profondément? Cela arrive, de temps en temps au moins. Alors je veux bien qu'on passe à la petite phrase suivante, voilà, merci. Mais n'allons pas croire que Paul, en disant ce qu'il a dit au verset 13, au chapitre 13, verset 1, en disant ceci, nous fait entendre que tout gouvernement est de droit divin. Il ne dit pas « révérez votre président car il est comme Louis XIV, le roi soleil ». Les rois de France usaient de ce genre de langage, aimaient à faire entendre que Dieu les avait placés. Ce n'était pas complètement faux, mais je crois qu'ils en abusaient de ce trait-là. Paul n'est pas en train d'affirmer cela. Et plus encore, il ne dit pas aussi que tout individu que nous sommes, nous devions une soumission absolue et aveugle aux autorités. Ce n'est pas ce qu'il fait dire. Mais il nous invite bien quand même à nous soumettre à eux. Et ce qu'il faut entendre chez Paul, c'est qu'en tant que chrétien, alors je veux bien qu'on fasse apparaître, alors voilà, merci. C'est qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons nous trouver une excuse ou un prétexte pour ne plus nous soumettre à nos autorités, en regardant à eux et en pointant du doigt leurs défauts, leurs péchés, en disant « Mais Dieu, tu vois bien à quel point celui-ci est ceci ou celle-là est comme ceci, je n'ai plus de raison de lui obéir, je peux faire ce que je veux dans ce monde. Enfin, » j'exagère un peu, mais nous pourrions être tentés. Et c'est ce que Paul invite à faire. Il dit « Soumettez-vous, ne regardez pas ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Dieu a quand même voulu qu'il y ait des autorités pour veiller sur vous. » Entre guillemets, alors ça n'a pas toujours été jusque-là. Hein. Mais prenons un premier exemple, peut-être plus pour nous aujourd'hui. Parfois, suivant nos sensibilités, on serait à même de parfois vouloir ne plus se soumettre trop à certaines de nos autorités. Peut-être juste mon chef, mon PDG, peut-être mon député, mon maire, mon président, tout ce que vous voulez. Hein. Mon roi. Non, vous n'avez jamais eu de roi au-dessus de vous. Ça peut arriver, il y en a encore quelques-uns dans ce monde. Hein. Il n'y a pas eu des révolutions partout. Mais prenons un premier exemple. Paul, ici, est en train de nous dire que, pour aujourd'hui, si un président divorce, ça, en général, déjà, on n'aime pas trop. Si un président divorce, ou même s'il a des aventures extra-conjugales, et en France, on a eu des présidents qui ont fait un peu parler d'eux, ainsi. C'est un peu lointain, mais il y a un grand homme d'État comme ça. Il y en a peut-être d'autres même. Mais cela ne doit pas être pour nous une raison de ne plus accorder le respect et l'autorité qui lui a été donnée. Entendez bien, parce que parfois, ce genre de raison nous ferait dire... Celui-là, il n'est vraiment pas respectable. Je n'ai plus à le respecter. Autre exemple. J'en prends un autre sur un autre plan. Parce que peut-être celui-là, on se dit non, ça ne me pose pas de problème. Si nous percevons que, par exemple, nos députés ou autres gèrent mal l'argent public, ce sont des questions qu'on entend un petit peu en ce moment. Et on pourrait même s'imaginer qu'ils le dilapident à tout va. Ils ne savent pas gérer le pays, en gros. Devrions-nous essayer plus encore, alors, d'échapper au paiement de nos impôts, quitte à vouloir même, pourquoi pas, frauder. Ce serait poutou, je leur donne de l'argent, ils en font n'importe quoi. Je ne vais pas le leur donner. Ça ne leur sert à rien, regarde ce qu'ils en font. Ils le jettent par les fenêtres. Alors je vais essayer de me le garder. Je vais essayer de m'arranger avec la loi. Et si la loi ne suffit pas, je vais peut-être, pourquoi pas, aller jusqu'à tricher un peu, ne pas tout déclarer, je ne sais quoi. Hein. Je n'ai pas idée de toutes les bidouilles qui sont possibles. Mais je pense que l'homme est très inventif pour ça. Après tout, on pourrait considérer que de réagir d'une telle manière, ce serait que rendre justice. Ces gens au-dessus de moi font n'importe quoi. J'arrête de leur confier mon argent. Je crois qu'au contraire, Paul, quand il dit ce qu'il dit là en Romains 13, nous invite par son exhortation à nous soumettre à nos autorités en nous acquittant convenablement de notre tâche, notamment en payant nos impôts et sans chercher à bidouiller, à louvoyer, à squeezer les trucs, à mettre de côté. Bon, je pense pas que vous ayez encore des comptes aux îles Caïmans et ce genre de choses, rassurez-moi. Voilà. Mais c'est un aspect bien concret aussi, là encore. Un aspect concret du témoignage de notre soumission auquel Paul nous invite. Et d'une certaine manière auquel le Seigneur nous invite. Quand il nous invite à rester dans ce monde, c'est aussi pour respecter ce que Dieu a voulu, ses autorités. Qu'elles soient plus ou moins bonnes, hein, ou plus ou moins mauvaises. Il en est ainsi régulièrement de beaucoup de chrétiens d'être tiraillés, je vous fais ma petite gymnastique là, entre demeurer dans la soumission ou vouloir résister aux puissants pour des raisons parfois très très différentes. Et des raisons pour nous qui reposent non pas seulement sur notre foi, mais parfois aussi, il faut l'admettre, sur nos propres sensibilités individuelles. Et la tentation alors peut être encore plus grande d'entrer dans des formes, pourquoi pas, d'incivilité. La fraude fiscale en est une. Alors, elle est punie, hein. Tâchez de ne pas vous faire surprendre. Non, j'exagère. Surtout, ne le faites pas. Mais, par exemple, quand les droits de l'homme, quand à propos de l'éthique ou même de la politique sociale d'un pays, d'une nation, quand tout cela vacille ou que l'un d'entre eux vacille, nous pouvons, nous, être bien sûr tentés d'entrer en résistance ou de protester. Paul ne dit pas que c'est impossible, mais entendez bien que le chemin qui y conduit, en toute sagesse, demeure étroit. Ou pour le dire autrement, il nous est plus facile d'invectiver, de laisser des laides paroles, des insultes, hein, si vous préférez, sur, pourquoi pas, des réseaux sociaux, parce que c'est encore plus lâche, hein. On balance un truc, je suis jamais en face de la personne, qu'elle le prenne comme elle le veuille. Mais il nous est plus facile de tomber là-dedans que de vouloir entrer, par exemple, dans une protestation non violente. Comme l'a eu fait, par exemple, Martin Luther King, il y a de cela quelques décennies. Dans cette tension, dans ce paradoxe-là, ce faux paradoxe, que peut engendrer notre double citoyenneté, Paul ne nous invite pas à nous taire pour autant. Il ne disait pas, surtout, écrasez-vous. Il parle de soumission, pas plus. Et j'aimerais vous inviter encore pour regarder à quelques exemples, de regarder à son époque, pour y trouver, je l'espère, un exemple parlant. Mais auparavant, j'ai une question pour vous, et là j'aimerais bien que vous me répondiez. Écoutez, elle est très simple cette question. Parmi vous tous, et surtout ceux qui ont un véhicule, plutôt une voiture même, qui arbore sur son coffre, sa malle, son pare-brise arrière, un ictus, ou si vous voulez, un poisson. Vous pouvez lever la main, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, voilà, au moins, bon, ben ça fait pas fureur dans notre église. Ah, si quelqu'un, bon, vous êtes timide, j'en ai un, mais je veux pas trop le montrer. Ben, si vous l'avez collé, il est visible, hein, normalement, mais... Alors, je m'arrête là, mais c'était juste pour vous interpeller. Je pense que vous l'en avez tous vu, vous en avez aperçu. Même si vous n'en avez pas et que vous le voyez sur une voiture, vous dites « Ah, c'est un frère ou une sœur !» Vous le savez, ça. Bon, voilà, je faisais le point là-dessus. Alors, on va essayer de creuser un petit peu et d'aller regarder après l'histoire. Je pense que, vous le savez, je veux bien qu'on affiche alors, la page suivante en termes de diapo. Et peut-être juste encore... Voilà, merci. Ce symbole que vous voyez là... est un symbole que, bien sûr, beaucoup de chrétiens aiment à poser sur leur véhicule. Et cela, c'est international, hein. C'est pas juste les Français. Allez dans un pays étranger, vous allez en voir aussi. Alors, on ne l'appelle pas le poisson. On l'appelle toujours l'ictus. Alors, ça remonte à loin, hein. Car il s'agit du mot poisson, mais dans la langue grecque. Au temps de Paul, au temps du tout début de l'Église, on est resté avec un très très vieux mot. Hein. On est très vintage hein, sur ce truc-là. Là. C'est comme ça. Et ce poisson est vite devenu un symbole chrétien. Et cela dès le début de l'ère chrétienne. Alors ça, je pense, vous le saviez. Mais j'ai encore une autre petite question. Je ne vous demande pas de répondre forcément là. Savez-vous d'où vient ce symbole? Comment il a été trouvé? Est-ce qu'il y a un chrétien qui s'est dit, tiens, un jour je vais mettre un poisson sur ma charrette? Et mes frères, sachez que je suis chrétien quand vous le verrez. Ça marche pas comme ça, ça ne s'est pas fait comme ça, vous en doutez bien. D'où il vient ce poisson? Alors, je vous donne, et je veux bien qu'on affiche la petite partie qui vient juste après. Alors, je vous donne un mot savant, il s'agit, vous pouvez tout de suite l'oublier, d'un acronyme. Qu'est-ce que c'est qu'un acronyme? C'est-à-dire un mot qui est formé des initiales d'une phrase ou d'une expression. Je vous ai donné un autre exemple qui n'a rien à voir, hein. C'est juste pour l'illustration. L'OTAN, en français. Vous en avez tous un peu entendu parler. L'OTAN, c'est, alors je le relis pour ne pas faire d'erreur, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Prenez chacune des initiales, on les regroupe, et ça marche, quand on peut le lire, ça donne comme un mot. Bon, c'est pas un vrai mot, hein, mais ça sonne tel que. Avec l'ICTUS, c'est pareil, c'est un acronyme. Sauf que là, c'est encore mieux, parce que l'expression qu'il y a derrière, I-C-H-T-H-U-S, etc., là, a donné un mot, mais qui existait déjà dans la langue, dans le grec, et c'était le poisson. Or, tant mieux. Mais au fait, puisqu'il s'agit d'un acronyme, c'est-à-dire qu'il y a donc, derrière le mot ICTUS, une expression. Quelle est cette expression? Qui la connaît? C'est du grec, hein, c'est un peu chelou. On n'a pas toujours l'habitude de parler grec tous les jours. Mais c'est peut-être la seule phrase de grec que vous connaissez. Voilà, j'ai eu deux, trois le main levée. Alors, je vous la donne. Voilà, merci à l'appareil. Il y a du grec au début et à la fin, c'est la version française. Hein. Mais pour le lire plus ou moins, mon grec est un peu rouillé, c'est « Jesus Christos Theou huos soter ». Qui, en français, parce que le français découle du grec, en passant par le latin, « Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur ». Dans l'ordre, hein, vous prenez et ça marche très bien. C'est ça. Et quand vous reprenez le grec, vous prenez les initiales, vous avez « ictus ». Voilà. Voilà, vous savez d'où vient ce poisson que vous avez peut-être collé sur votre voiture. C'est l'ictus. Alors, autrement dit, ce symbole que les chrétiens depuis déjà longtemps arborent ou affichent est surtout une déclaration de foi. C'est pas juste pour faire joli. C'est une déclaration de foi. Certes très synthétique, mais une déclaration de foi graphique. Il n'y a même plus besoin de le dire parce que quand on voit le poisson, on sait ce que cela veut dire. La déclaration de foi est dite, mais elle est faite par un symbole. Et ce n'est pas qu'un symbole, c'était aussi un code, comme un code secret. Une manière de l'afficher, mais pour qu'entre nous, on le sache. Pour que le païen du dehors, qui peut-être me voulait du mal, ne le comprenne pas tout de suite, je l'espère. Alors je veux bien qu'on affiche la petite diapo suivante, parce que cela n'était pas qu'un code à cette époque latine, il s'agissait aussi d'une déclaration polémique. Et c'est à ça que je voulais en venir. Parce que ça, peut-être, on l'oublie complètement. D'user de ce symbole qui veut dire « Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur » était une déclaration polémique. Dans un temps où l'Empire demandait à tout, concitoyens, parce qu'il y avait les citoyens romains et puis il y avait ceux qui étaient d'un grade en dessous, plus les esclaves, mais tous ces gens qui peuplaient l'Empire était censé pouvoir saluer ou dire le nom de l'empereur selon une formule précise. Jules César, fils des cieux, empereur. Une expression obligée et obligatoire que normalement toute personne vivant dans cet empire devait pouvoir prononcer. Je ne saurais pas vous dire le quand, le comment, peu importe. Mais cette expression-là, qui était une demande faite, était une expression qui déclarait la divinité de l'empereur. Voyez un peu la problématique. Quand on dit Jules César, c'est pas juste le Jules César d'Astérix, hein. C'est un titre honorifique qui donne le nom de l'empereur, bah, qui dit l'empereur. Mais quand on dit fils des cieux, on le divinise. Avec son titre, il est empereur. Effectivement, c'était demandé aussi à tout chrétien vivant dans l'Empire romain. Il devait pouvoir le dire en certaines circonstances. Or, c'était une manière de résister, de montrer l'ictus, de l'afficher, c'était une manière de déclarer « Je ne dirai jamais cela, je ne peux dire cela, pour moi, Jésus-Christ, fils de Dieu, est sauveur. » Point barre. Il n'y en a pas d'autre. Je ne peux diviniser une autre personne, un autre humain. Il n'y a que Jésus qui, lui, est homme et fils de Dieu. C'est tout. C'était afficher ce symbole, c'était quelque part prendre une forme de risque, de montrer son opposition à ce qui se disait à propos de l'empereur. Et il y avait vraiment là une polémique, comme je l'ai dit. Alors, entendez bien que d'afficher un ictus n'était pas là aussi pour faire la révolution et vouloir couper la tête de l'empereur. Ça, c'est le truc que les Français aiment faire. Ils aiment bien destituer les gens, mais au temps de Rome, ça ne s'était pas fait. Il n'était pas question de cela. Autrement dit, les chrétiens ne cherchaient nullement à porter atteinte à l'empereur. Mais ils s'opposaient. Ils s'opposaient tout en le respectant. Il est notre empereur, mais jamais nous n'allons dire de lui qu'il est le fils des cieux, ou les fils des dieux, ou je ne sais plus comment ils le disent. Fils des cieux, voilà. Ils s'efforçaient de le respecter au quotidien, mais sans aller trahir leur foi. Et de le faire par l'ictus était aussi une forme d'affirmation très forte. Pas juste une confession de foi, une polémique aussi. On le dit dans un discours qui s'oppose à ce qu'est l'empereur. Aussi, ils disaient leur foi par des symboles comme le poisson. Voilà quelle fut l'une des manières de résister des chrétiens, c'est-à-dire de se soumettre, de respecter ceux qui sont placés au-dessus, tout en combattant les aberrations d'un empereur. En osant le faire par ce que j'ai appelé la polémique, mais qui est ici pour moi devenue une arme de la foi. Je revendique qu'il n'y a que Jésus qui est fils de Dieu. C'est tout. Alors, je veux bien qu'on passe à la dernière diapo. Ah, voilà, merci. C'est une belle leçon ici, de regarder à cet ictus. J'espère peut-être maintenant que vous l'avez sur votre voiture, vous direz. Vous n'êtes peut-être pas très polémique aujourd'hui en l'affichant, hein. Ça n'a peut-être plus la même vertu. Mais, il a encore d'autres vertus. Mais comme je l'ai dit, c'est une belle leçon de la tension à garder dans notre double citoyenneté, à laquelle nous sommes appelés à vivre pour Christ. Car nous l'avons entendu tout à l'heure dans sa prière, et j'y reviens maintenant, s'il nous commande de vivre sans chercher à nous retirer de ce monde, c'est pourquoi ? Mais tout simplement pour le servir, lui avant tout. Car s'il nous a fait citoyens du ciel par sa mort et sa résurrection, tout en nous gardant dans ce monde, alors je veux bien qu'on affiche la petite suivante, c'est afin que nous lui rendions un juste témoignage, que nous le glorifions au jour le jour dans ce monde rongé par le péché et qui pour autant a soif de justice. Ce monde a soif de justice, sauf que très souvent il s'y prend très mal, en raison du péché. Et si d'être aujourd'hui encore solidaire de ce monde, d'être citoyen de ce monde si vous préférez, d'y être envoyé par le Seigneur, tout cela peut nous sembler encore difficile, voire même éprouvant, n'en oublions pas dans quel contexte Jésus nous fait entendre ses paroles. Dans Jean 17, quelles sont ces paroles? Cette invitation à la fois à ce que Dieu nous protège parce que nous lui appartenons, mais aussi à ne surtout pas nous soustraire à ce monde. Dans quel contexte Jésus dit cela? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il prie. Il prie. Et il prie pour nous. Entendez-le bien, c'est une prière du Seigneur pour chacun de ceux qui lui appartiennent. Alors je viens encore pour la dernière et petite phrase, voilà. Mais je reviens sur ce que j'avais dit à propos de ce texte de Jean 17 tout à l'heure. Un texte, comme je vous l'ai dit, je le trouve magnifique. Car je reste pour moi persuadé qu'aujourd'hui, encore comme demain, Jésus prie toujours, d'une même manière, peut-être pas avec les mêmes mots exactement. Nous ne sommes plus dans la situation exacte des disciples et des apôtres alors, mais pour autant, je suis sûr et persuadé en raison de ma foi qu'aujourd'hui, Jésus, et demain encore, il prie de cette même manière pour nous. Il prie et continue d'intercéder pour nous aujourd'hui à la droite du Père afin que nous restions dans l'unité, comme Dieu est un. Voilà ce qu'il désire beaucoup, voilà ce qu'il désire énormément. Il désire que nous restions attachés à lui, malgré les dangers de ce monde, malgré les tentations et les épreuves qui rôdent. Et il prie aussi afin que nous soyons préservés du malin, ce qu'on entendait un peu plus loin dans le verset 15 de cette prière. Et je vous le dis, quand je relis ce passage, quand je viens à le relire, et là c'était le cas encore ce matin bien sûr, mais pour moi, il y a aussi là quelque chose d'important qui se dit et se vit. Pour moi, quand je lis, c'est pas juste moi qui lis un texte d'une prière que Jésus a eue autrefois. Pour moi, j'entends, en raison de ma foi, Jésus qui prie aussi pour moi, encore, là, maintenant. Parce que nous disons des Écritures que c'est la parole vivante de Dieu. S'il y a bien des textes qui, quelque part, sont pas plus vivant que les autres, hein, mais qui nous dit à quel point cette parole est vivante pour nous aujourd'hui, maintenant et demain. Ce sont ces textes-là, par exemple, ce Jésus, ce même Seigneur qui continue de prier pour nous, afin que Dieu, notre Père, veille sur nous, afin que nous demeurions unis, mais que le mal aussi ne nous atteigne pas au-delà de nos propres forces, mais surtout pour que nous restions dans ce monde, pas juste parce qu'il veut nous tester, mais parce qu'il désire aussi nous utiliser, pour que nous soyons les témoins de sa grâce aujourd'hui, dans ce monde soumis au péché, esclave du péché, dont nous ne sommes plus du tout esclaves, dont nous avons été affranchis. Voilà pourquoi Jésus prie pour nous. Ce sont pour des témoins qu'il prie, pour des disciples, ce que vous êtes tous, je l'espère, aujourd'hui. Et si ça n'est pas le cas, n'attendez pas, attachez-vous au Seigneur, venez à lui. Mais entendez à quel point ce texte est vivant, et c'est la prière du Seigneur que nous pouvons entendre aujourd'hui. Dieu parle là encore à travers son Fils. Voilà, peut-être, je m'arrête parce que je suis tout ému là quand je dis ça. Arrêtons-nous, faisons silence, penchons-nous un instant pour méditer encore sur ces quelques paroles. Seigneur, je veux te remercier encore pour ce que tu es, ce que tu fais continuellement auprès du Père, aujourd'hui aussi. Merci parce que tu intercèdes pour nous. Merci parce que, tel que nous avons pu le lire dans cet évangile de Jean, tu dis tout ton amour pour nous. Et Seigneur, même si pour nous aujourd'hui, certainement, il nous est encore parfois difficile, pénible, éprouvant, d'avancer dans ce monde soumis au péché, d'être tiraillé entre le fait d'avoir l'assurance de t'appartenir et pour autant d'être solidaire de ce monde qui erre sans toi. Seigneur, merci parce que tu pries pour nous. Tu nous soutiens en intercédant auprès du Père et en nous ayant envoyé ton Esprit Saint. Seigneur, merci parce que tout simplement nous ne sommes pas seuls. Et ces paroles que nous avons lues fait qu'elles puissent encore résonner en nous puissamment. Qu'elles nous disent ta proximité par ton esprit en nous. Qu'elles nous rappellent ton amour pour nous. Qu'elles nous montrent et nous témoignent aussi de la bienveillance du Père pour nous. Amen.